Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Et bienvenue dans l'épisode 25 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. Comme d'habitude, c'est Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Taipei. Voilà, ça fait trois fois d'affilée, mais c'est la dernière fois, la prochaine fois, je serai à Bali normalement. Voilà, et cette semaine, de nouveau, je vous parle sans la compagnie de mon acolyte Plume, qui n'a pas pu se joindre à nous dans cet épisode non plus, mais qui se joindra dans un épisode suivant, évidemment. Cette semaine, nous avons un petit peu de courrier des auditeurs pour faire suite à notre sujet du dernier épisode, le premier dossier du Proof of Cast sur les algorithmes de consensus et notamment sur l'algorithme par preuve d'enjeu, la Proof of Stake. On a aussi un nouveau dossier du Proof of Cast cette semaine sur l'identité numérique et on a toujours un petit peu d'actualité. On parlera cette semaine de Lane Rating qui affole la communauté avec les problèmes de gouvernance. On parlera de l'industrie automobile, notamment des voitures autonomes qui s'intéressent à la blockchain. Et enfin, on parlera un petit peu de PewDiePie. Vous verrez pourquoi c'est pertinent. Commençons tout de suite avec le courrier des auditeurs. Je vous invite d'ailleurs au passage, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques, vos suggestions dans les commentaires de l'épisode sur le blog proofofcast.com, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous connaissez la chanson, pour ceux qui sont des réguliers du fait. Et bien entendu, on se fera un plaisir de répondre à vos questions dans les prochains épisodes, puisque je rappelle, ce podcast, c'est aussi le vôtre. Et cette semaine, c'est Soton Knut qui a laissé un commentaire en épisode sur le blog par rapport à l'épisode 24 qui nous dit: bonjour Sébastien, tout d'abord joyeux anniversaire au podcast Proof of Cast, et oui c'était les 1 an le dernier épisode. Je suis un auditeur régulier depuis 6 mois et c'est avec un plaisir toujours renouvelé que j'écoute ce podcast de très bonne qualité, bravo. Merci à toi, Soton. Le premier dossier sur la Proof of Stake m'a été très utile pour remettre en contexte cette technologie de consensus. Deux questions qui me viennent à l'esprit suite à cet épisode. D'abord, quel moyen matériel faut-il mettre en œuvre pour devenir validateur sur le réseau Ethereum? Est-il réaliste pour un individu de participer au minage de blocs en POS? Deuxième question, que penses-tu des initiatives de POS pooling telles que Rocket Pool? Et il nous donne le lien de rocketpool.net. Encore bravo et bonne continuation. Alors, on va répondre à cette question tout de suite, puisque visiblement, il y avait quelques ambiguïtés effectivement dans l'épisode précédent. Donc, je reprécise que dans le cadre d'un algorithme par preuve d'enjeu, proof of stake, il n'y a aucun moyen matériel à mettre en œuvre. Si ce n'est une machine connectée en permanence à Internet, avec suffisamment d'espace de stockage et de puissance de calcul pour faire tourner un nœud complet, hein, ce qu'on appelle un full node dans le jargon. Mais comme il n'y a pas de minage, mais uniquement une validation, il n'y a pas besoin de GPU ou d'ASIC. La validation par preuve d'enjeu ne nécessite aucun matériel particulier et ne consomme pas plus d'énergie qu'un nœud normal. Donc c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait réaliste pour un individu de participer à la validation par preuve d'enjeu. Encore une fois, tout ça est théorique dans le cas d'Ethereum, puisque Ethereum n'utilise pas encore un tel algorithme, mais à terme, ce sera l'objectif, et c'est même un des buts de la preuve d'enjeu, c'est de ne nécessiter aucune puissance de calcul. Donc tout le monde pourra participer, pour peu que vous possédiez suffisamment de d'Ether pour pouvoir fournir un dépôt de sécurité qui passe la barre d'entrée, si vous voulez. Il y aura une espèce de mise minimale, si on veut, de buy-in, un peu comme au poker, c'est-à-dire voilà, une mise qui sera nécessaire pour ça. Et justement, pour ceux qui n'ont pas cette mise minimale ou qui ne veulent pas la mettre, tout simplement, il y aura la possibilité de participer à des initiatives de pooling, un peu comme comme ce qui existe aujourd'hui avec les mining pools pour la preuve de travail, mais ce sera l'équivalent des mining pools dans le cas du proof of stake. Ce sera du stake pooling du coup. Et effectivement, Rocket Pool est un petit peu à l'avant-garde de ça. Ils ont commencé à travailler là-dessus il y a très longtemps déjà, enfin il y a très longtemps à l'échelle de la blockchain, hein, comme toujours. Mais ils ont déjà commencé à travailler là-dessus dès que les premiers prototypes de l'algorithme ont été publiés avec le Mauve Paper sur Ethereum. Et il y en aura très certainement d'autres, puisque clairement tout le monde ne pourra pas participer individuellement, ne serait-ce qu'égard à cette quantité d'Ether nécessaire qui n'est pas encore d'ailleurs définie et déterminée. On ne sait pas exactement à combien sera fixée cette mise minimale. Mais cette mise minimale, comme je l'avais expliqué la dernière fois, elle est là pour s'assurer que il y a un minimum de stake in the game, c'est-à-dire d'enjeux mis sur la table, et aussi il faut pas oublier que le but du proof of stake, c'est de pouvoir punir les mauvais acteurs, et cette punition sera prélevée de cette mise minimale, de ce dépôt de sécurité qu'on aura bloqué. Donc il faut que ce dépôt de sécurité soit suffisant pour que la punition soit potentiellement suffisamment importante. Donc c'est la seule condition pour participer au proof of stake, et donc de ce fait effectivement vous allez avoir toute une série de services qui vont apparaître. C'est déjà le cas dans d'autres réseaux comme Tezos par exemple, qui utilise déjà du proof of stake et qui met déjà en place des services de délégation qui permettent de mettre en commun des ressources pour arriver à ce qu'ils appellent le bankroll, enfin le roll, c'est-à-dire le minimum de aujourd'hui qui est à 10 000 Tezis, qui devrait passer à 8 000 Tezis à terme si leur processus de gouvernance en cours arrive à son terme avec succès. Donc effectivement ce genre de processus est intéressant, va démocratiser l'accès au staking en tenant compte du fait que tous ces pools, alors on parle de mining pool dans le cas de la preuve de travail, mais on parle de staking pool dans le cas de Rocket Pool, vous demandent de payer des frais. Donc ça rajoute un intermédiaire qui prend sa petite cut au passage, et eux ils sont toujours gagnants évidemment. Donc à voir après si le calcul mathématique sera en faveur de ça par rapport à faire votre petit nœud de validation dans votre coin. Encore une fois, à supposer que vous ayez la mise minimale, mais si vous l'avez, peut-être que ça pourrait être plus intéressant de ne pas payer cette commission, même si vous avez proportionnellement une chance moindre, une probabilité moindre de trouver, enfin de valider des blocs, que si vous mettez vos ressources en commun. Donc tout ça c'est des maths, et encore une fois les calculs sont encore très théoriques, puisque l'algorithme n'est pas finalisé. À noter au passage que certains craignent déjà que le stake pooling crée des structures très proches de ce que font les banques aujourd'hui, avec les mêmes dérives potentielles, hein, voire vu que les banques aujourd'hui c'est un peu ce qu'elles font, vous mettez votre épargne de côté et eux ils mettent en commun l'épargne de plusieurs épargnants et ils font des investissements avec, dont ils récupèrent la plupart des bénéfices et puis vous reversent un petit taux d'intérêt ridicule. Dans le stake pooling, il pourrait se passer plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il pourrait faire en sorte de vous reverser le minimum pour que ce soit juste assez intéressant par rapport à vous valider tout seul dans votre coin, mais il pourrait continuer à toucher l'essentiel des bénéfices de ça, donc à voir. En tout cas, c'est clair que Rocket Pool est tôt sur la balle, tente de suivre les évolutions de l'algorithme au plus près. Encore une fois, il y en aura d'autres et il va falloir suivre au fur et à mesure des évolutions de l'algorithme Casper, enfin oui, c'est ça, le nom de code c'est Casper pour l'algorithme de Proof of Stake sur Ethereum. Donc affaire à suivre, mais encore une fois je répète, aucune puissance de calcul particulière nécessaire à mettre en œuvre pour participer au Proof of Stake, c'est tout l'intérêt du bazar. J'espère que ça aurait répondu à ta question, Sotentout. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques ou des demandes de précision par rapport au dossier du Proof of Cast, c'est l'occasion d'utiliser le blog, les commentaires du blog pour nous poser tout ça. Passons maintenant au dossier du Proof of Cast de la semaine. La semaine dernière, on a donc évoqué le Proof of Stake dans la catégorie les technologies clés de la blockchain. Cette semaine, on va s'intéresser à une application potentielle de la blockchain qui est l'identité numérique. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, les banques ou les notaires, par exemple, formalisent la notion de propriété en s'appuyant sur des registres centralisés dans lesquels ils utilisent comme point de corrélation des des identités réelles qui sont attribuées par les juridictions ou les états-nations dans lesquels ils opèrent. Autrement dit, le notaire va dire par exemple cette maison appartient à telle personne. Et le telle personne, il est certifié parce que la personne a présenté une pièce d'identité ou plusieurs pièces d'identité qui lui ont été fournies par des états ou des juridictions locales par exemple. Donc il s'appuie, il y a une espèce de combinaison de chaînes d'évidence, si on veut, de chaînes de preuves, qui s'appuie d'une part sur des registres et d'autre part sur un système d'identité fiable. Dans le cas des blockchains, c'est même une de leurs forces, elles permettent de formaliser la notion de propriété sans nécessité ni centralisation, hein, avec ce registre distribué des transactions, mais ni formalisation non plus de l'identité. On n'a pas besoin de savoir a priori qui à qui on a affaire pour lui faire confiance, puisque la confiance est placée dans l'algorithme. Et ensuite, on a affaire à des identités pseudonymes, c'est-à-dire juste une adresse qui correspond à une clé privée. Et dans une blockchain, un compte et les actifs associés à ce compte vous appartiennent si vous disposez de la clé privée associée à ce compte. Donc au passage, ça veut dire aussi que si vous faites piquer votre clé privée, ben, vous faites piquer la propriété qui va avec. Mais du coup, ça veut dire que n'importe qui peut générer une telle clé privée et l'utiliser sans demander aucune autorisation à qui que ce soit. Du coup, ça veut dire qu'il est facile et gratuit pour tout un chacun de se créer autant de comptes qu'il le souhaite. Il est même possible d'associer un nombre infini de comptes à un algorithme ou à une entité automatique quelle qu'elle soit, donc à un bot, clairement. Le problème, c'est qu'il y a des cas d'utilisation qui semblent beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre sans un concept formel d'identité. Par exemple, tout système de vote sur la blockchain est soumis à un risque d'attaque qu'on appelle les attaques sibyllines, c'est-à-dire que on peut associer un nombre de votes infini à un seul acteur humain, puisque un seul acteur humain peut créer un certain nombre de comptes. Donc si on dit un compte, une adresse égale un vote, du coup, comme on peut se créer plein d'adresses, on peut aussi avoir plein de votes sur une seule personne. Il existe une stratégie pour limiter cet effet, c'est de comptabiliser les votes en fonction du solde de chaque compte au moment du vote. Mais alors, autrement dit, donc plus on a d'argent, plus on a de crypto-monnaies, en l'occurrence, plus on a de tokens, et plus notre vote est puissant. Mais alors, on est dans ce qu'on appelle un cas de plutocratie, c'est-à-dire que le pouvoir appartient finalement aux plus riches. Alors, dans certains cas de figure, ça se justifie. Pour certaines décisions, ça peut se défendre. Mais pour des décisions purement démocratiques ou des décisions qui impliquent des choix sociaux, c'est beaucoup plus discutable. En gros, si on veut un système équitable dans lequel chaque être humain dispose d'une seule voix, il devient nécessaire de formaliser les êtres humains sur la blockchain. C'est un terme un peu barbare, mais l'idée, c'est d'assurer l'unicité des votes, c'est-à-dire une personne égale un vote, et non pas seulement un compte égale un vote ou un token égale un vote. De manière plus importante, c'est un peu le dernier grand service étatique dont on n'arrive pas encore à se passer, notamment avec la blockchain, et pour lequel il faudra trouver une solution si on veut passer notamment à une gouvernance sans État et complètement décentralisée, ce qui est un peu le saint graal, le rêve caché de tous les fanas de décentralisation, dont je fais partie évidemment. Au passage, on a aussi besoin d'un concept fort d'identité formalisée pour des cas d'utilisation comme, par exemple, le revenu de base universel. Là, le but, c'est d'attribuer une somme d'argent à une personne, et si une personne peut s'associer plusieurs identités, dans un système de revenu de base, elle pourrait aussi toucher plusieurs fois l'argent. C'est évidemment pas l'objectif si on veut rester équitable. Et sans parler de l'importance que ces problèmes d'identité ont dans toutes sortes d'autres processus de vote, comme par exemple le crédit qu'on accorde aux informations. Donc tout le problème des fake news aujourd'hui, de l'information, des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est que les likes, les liens, les retweets, tout ça n'a aucune valeur tant qu'on peut facilement multiplier les comptes qui les accordent. Donc si je peux avoir plein de comptes faux comptes Facebook ou de faux comptes Twitter, je peux faire autant de retweets et de likes que je veux, ils n'ont pas de valeur en soi. N'empêche que ça influence vachement les algorithmes qui nous expose tout ce contenu. Et c'est un peu ça qui se passe avec aujourd'hui les content trolls qui qui booste un petit peu la valeur de ces news, alors qu'elle n'est pas certifiée par, elle n'est pas, agréée ou validée par un être humain derrière. Donc, d'une manière générale, ce qu'on cherche à établir, c'est un système permettant de créer une identité personnelle souveraine, ce qu'on appelle en anglais une self-sovereign identity. Et c'est un peu ça le nœud du problème. Alors, concrètement, c'est quoi les propriétés d'un système d'identité souveraine? J'ai trouvé une très bonne référence pour ça. Encore une fois, hein, tous les liens sont dans l'article du blog, comme d'habitude. Ça s'appelle la Déclaration des droits de l'identité souveraine, ou le Self-Sovereign Identity Bill of Rights. Ça a été écrit par une boîte qui s'appelle LifeID et qui crée une solution d'identité qui veut résoudre ce problème-là, justement. Alors, les propriétés, encore une fois, énoncées par eux, hein, mais qui sont assez intéressantes d'un point de vue générique, c'est d'abord que le système doit être unifié entre le monde numérique et le monde physique. Il s'agit pas seulement de créer une identité numérique, mais de créer un système d'identité numérique qui permette aussi une utilisation dans le monde physique, pour des cas d'usage beaucoup moins numérisés. Ensuite, les outils d'accès aux informations d'identité doivent être librement accessibles, aussi bien pour lire ces informations d'identité que pour les modifier. Donc, notamment, le porteur de l'identité doit pouvoir aller facilement modifier ces informations sans devoir acheter des logiciels propriétaires ou des choses de ce genre-là. Ensuite, troisième règle, les protocoles sur lesquels ces systèmes sont basés doivent être ouverts et transparents. Encore une fois, si on a affaire à des protocoles propriétaires, on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qui se passe, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe sous le capot, et ça peut être dangereux pour son identité. Ensuite, les utilisateurs doivent pouvoir participer à la gouvernance de l'infrastructure dans laquelle leur identité est gérée. Donc là encore, si on n'a pas le contrôle sur comment cette infrastructure évolue, ben on n'a pas vraiment le contrôle ultime de son identité. Ensuite, l'identité doit exister aussi longtemps que l'utilisateur qui la porte, indépendamment d'ailleurs des affirmations associées à cette identité. Donc on doit pouvoir avoir un identifiant, mais si à un moment donné, votre nom change ou même quelque chose qui était vrai vous concernant ne l'est plus demain, vous devez pouvoir modifier cette information indépendamment de votre identifiant qui lui doit pouvoir vous suivre tout au long de votre vie et rester vivant aussi longtemps que vous. Ce qui veut dire au passage que un tel identifiant et ses informations associées stockées dans, un système pas suffisamment résilient, qui risque de disparaître du jour au lendemain, c'est pas vraiment une bonne idée. Ensuite, l'identité doit être portable d'un système à un autre. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous n'êtes plus satisfait de la façon dont une infrastructure est gérée, ou tout simplement que vous voulez pouvoir faire voyager votre identité avec vous, elle doit pouvoir être portable d'un système à un autre. C'est-à-dire que vous devez pouvoir facilement copier, déplacer cette information d'un système à un autre, encore une fois, sans mettre à mal le concept d'unicité de votre identité. Ensuite, l'identité doit être aussi interopérable entre les différents systèmes avec lesquels le porteur interagit. L'idée, c'est de pouvoir utiliser son identité partout, que j'utilise la blockchain A ou la blockchain B, que j'utilise une blockchain ou pas d'ailleurs, je dois pouvoir interagir avec ces différents systèmes en utilisant mon système d'identité de manière interopérable. Autre règle, toute information associée à l'identité d'une personne ne peut être partagée avec un tiers qu'avec l'accord du porteur de l'identité. Autrement dit, on doit maintenir une certaine confidentialité et on ne doit pas forcément révéler tout un tas de choses quand on n'a besoin que d'une chose. Donc si par exemple je veux prouver que, j'ai le droit de... je suis majeur, donc j'ai le droit de passer mon permis de conduire, tout ce qui intéresse l'auto-école, c'est que de savoir est-ce que j'ai plus ou moins de 18 ans. Elle a même pas besoin de savoir mon âge exact, elle a certainement pas besoin de savoir, mon adresse ou ma date de naissance ou d'autres éléments comme ça. Tout ce qu'elle a besoin de savoir, c'est si j'ai plus ou moins de 18 ans. Et donc, on doit pouvoir libérer ces informations au compte-gouttes et on doit garder le contrôle de qu'est-ce qu'on révèle à qui. D'ailleurs, l'autre règle, c'est qu'aussi que pour chaque interaction impliquant l'identité d'une personne, le minimum nécessaire d'informations associées à cette identité doit être partagé. C'est-à-dire que, encore une fois, on doit minimiser le partage d'informations personnelles. Et enfin, les droits du porteur d'identité doivent surpasser les droits de toute autre plateforme ou identité qui interagit avec ce système. Donc voilà, je trouve les règles assez intéressantes. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celles-là sont assez complètes, je trouve. Et ça illustre bien les problèmes qu'on essaye de résoudre quand on parle d'identité, notamment d'identité liée à la blockchain. Alors, pour juste donner quelques exemples, il existe plusieurs tentatives technologiques pour implémenter ces différents concepts et mettre en place un système d'identité souveraine. Un de ceux-là s'appelle UPort, qui est basé sur la blockchain Ethereum. Et dans ce cas-là, on essaye d'associer une identité à une adresse Ethereum. Et ensuite, on a un système de passeport qu'on peut créer numériquement sur son téléphone, par exemple, et qui permet d'associer un certain nombre de ce qu'on appelle en anglais des claims, donc on va dire des affirmations à son identité et de les faire valider par soit des institutions, soit d'autres utilisateurs par différents biais. Voilà, c'est un système qui existe sur la blockchain, sur le mainnet Ethereum. Vous pouvez aller voir sur uport.me et vous renseigner là-dessus. Un autre exemple d'implémentation, c'est justement LifeID, qui lui est pour l'instant basé sur AirChain, mais qui se veut agnostique de blockchain, qui peut s'adapter à plein d'autres blockchains également. Et voilà, donc j'ai pas plus d'informations ici, je vais pas rentrer plus que ça dans le détail, mais voilà, je vous invite à vous renseigner. Encore une fois, tous les blocs sont dans le tous les liens pardon sont dans le blog post. Sur la blockchain Ethereum, il y a un autre projet qui est très intéressant, qui est un ERC, donc un Ethereum Request for Comments, autrement dit un futur EIP potentiellement, donc une amélioration, un protocole, tout simplement, qui pourrait être proposé pour Ethereum, qui s'appelle l'ERC 725, qui vise à établir un standard pour l'identité self-sovereign, donc l'identité personnelle souveraine sur Ethereum. Il y a une alliance qui a été créée autour de ça, le C725 Alliance, qui permet de promouvoir ce protocole et essayer de le développer. Et évidemment, il y a toute la documentation sur GitHub. Au passage, le gars qui a lancé ce protocole, enfin cette proposition de protocole, c'est Fabian Vogelsteller, qui est aussi le gars qui est derrière le protocole ERC20 sur lequel sont basés tous les tokens Ethereum aujourd'hui. Donc c'est quand même un gage de sérieux. Et voilà, je vous invite à aller voir ce truc-là. Et moi personnellement, probablement la tentative, le projet, la recherche qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est en train de se faire chez Democracy.Earth. Donc j'ai déjà parlé de ce projet à plusieurs reprises, hein, c'est le projet fondé par Santiago Siri et qui travaille sur ce qu'ils appellent des preuves Turing impossibles, Turing impossible proofs, c'est-à-dire des tests qu'il n'est possible à vérifier que pour un être humain et pas pour une machine. Donc c'est une espèce de captcha mais en beaucoup plus puissant, puisque là l'objectif c'est pas de permettre à une machine de vérifier que vous n'êtes pas un robot, donc un robot qui vérifie que vous n'êtes pas un robot, mais simplement un humain de vérifier l'existence et l'unicité d'un autre humain. Et c'est un peu ça qui est nécessaire finalement quand on y réfléchit pour établir ce système d'identité. Évidemment, ça doit pouvoir fonctionner à distance. Donc je peux vérifier facilement que mon voisin de palier est là et qu'il existe et qu'il est unique. Mais je dois pouvoir, pour que ce genre de système fonctionne à l'échelle, je dois pouvoir aussi le faire à distance et avec toute la puissance de l'outil numérique qui peut aller avec. Maintenant, tout ça va se baser sur des tokens. Il a publié notamment un article, encore une fois, qui est lié sur le blog post, dans lequel il explique un système basé sur 3 tokens, un token Hour, un token Vote et un token Self. Voilà, je vous invite à aller voir ça, c'est très intéressant. C'est encore très théorique. Je sais qu'à un moment donné, il parlait d'un système de preuve d'identité basé sur la validation de vidéo, puisque la vérification automatique de vidéo est très compliquée, voire elle est pas faisable, pas pratique aujourd'hui avec des algorithmes purement d'intelligence artificielle, par exemple, alors que c'est assez facile finalement pour un être humain. Mais voilà, il y a d'autres voies de recherche possibles, et toujours est-il que pour l'instant, on n'a pas encore une implémentation concrète de ces concepts-là, mais ils y travaillent activement dans le contexte de la mise en œuvre de la démocratie liquide, ce qui est un petit peu le cheval de bataille de Democracy.Earth. Et ça, c'est seulement quelques exemples, il en existe certainement d'autres, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a un certain nombre de projets qui travaillent sur ces problématiques aujourd'hui. En résumé, l'identité n'est pas à proprement parler une application potentielle de la blockchain en tant que telle. Par contre, on commence à se rendre compte que c'est une nécessité de réinventer le concept d'identité dans un monde où la blockchain existe, si on veut réaliser l'intégralité du potentiel de la blockchain, notamment en termes de décentralisation. Maintenant, si en tant que société, on défend l'idée que chaque individu devrait avoir le même poids dans les décisions qui sont prises pour tous, alors effectivement, il nous faut d'abord reconnaître que c'est pas le cas dans la société actuelle, pour commencer, sans parler de blockchain. Ça devrait l'être, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a tout un tas de votes qui sont influencés par beaucoup plus que juste des décisions individuelles. Et de fait, le pouvoir du plus riche est déjà bien en place dans pas mal de cas. Et ensuite, il faut trouver un moyen de créer un nouveau système qui établisse effectivement ce concept de une personne humaine égale un vote, si on veut vraiment être équitable. Maintenant, on peut aussi décider que dans un système, plus une personne est investie, plus elle a intérêt à voter dans le sens de l'intérêt général. Maintenant, c'était un petit peu la promesse du capitalisme, et on peut pas dire que ça... En tout cas, le capitalisme libéral a démontré... a démontré ce concept sur les décennies qui viennent de s'écouler. Donc, à voir si c'est vraiment pertinent. En tout cas, est-ce que la blockchain suffira pour définir un nouveau concept d'identité ? Est-ce qu'il nous faudra une autre invention de la même magnitude que la blockchain pour résoudre cet autre problème ? Et si oui, est-ce que ce système sera compatible avec la blockchain et ses valeurs ? C'est difficile à répondre à ces questions aujourd'hui. En tout cas, le flou artistique qui règne autour de ce concept ralentit fortement de nombreux projets liés à la blockchain qui se retrouvent à devoir prendre des décisions complexes de manière collective et décentralisée. On en a parlé un petit peu la semaine dernière et on va encore en reparler cette semaine dans l'actualité. C'est un peu presque comme si on avait un peu mis la charrette avant les bœufs, mais qu'il était un peu trop tard pour stopper le train en marche. Voilà, on s'est rendu compte maintenant qu'on a besoin ces concepts d'identité, même pour des trucs plus modernes. On a parlé aussi la semaine dernière, je crois, du concept de vote quadratique, qui est un système de vote qui a été démontré mathématiquement comme permettant d'aboutir à des résultats optimaux. Et ce système de vote pragmatique, il s'appuie aussi sur un système d'identité unique et non attaquable par des machines. Donc voilà, tout ça c'est très compliqué et on n'y est pas encore. Je vous ai mis toute une liste de sources. J'ai malheureusement, je suis presque un peu frustré parce que j'espérais avoir des choses plus concrètes à partager avec vous, mais c'est tout encore très flou, encore très théorique, encore très à l'état recherche et développement. Donc le mieux que je puisse faire à ce stade, c'est juste vous partager les sources que j'ai trouvées et vous inviter à aller les voir et à vous faire votre propre opinion comme d'habitude. Toujours est-il que si vous avez des questions plus concrètes, plus particulières, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cet épisode sur leproofofcast.com ou sur les réseaux sociaux et on essaiera d'y répondre dans un prochain épisode, évidemment dans la mesure du possible. Passons maintenant à l'actualité de cet épisode. On va commencer par parler de Lane Retic qui affole la communauté Ethereum avec les problématiques de gouvernance. Alors le 30 mars dernier, Lane Retic, qui est un des développeurs principaux de la blockchain Ethereum, ce qu'on appelle un des core developers, qui fait partie de pas mal d'initiatives autour de la fondation Ethereum, etc. et qui aussi donne de nombreuses conférences autour de ces sujets-là, a déclenché une nouvelle controverse en publiant un round sur Twitter qui commençait avec ce message: la gouvernance Ethereum a échoué. Nous sommes une technocratie de fait dans laquelle un petit groupe de technocrates, les développeurs en l'occurrence, ont le dernier mot sur ce qui rentre dans le protocole. Boum, ça s'est posé, je vous pose ça là, je vous laisse ça là, je vous laisse en faire ce que vous voulez. Évidemment, le fil continue avec une explication un peu plus détaillée, mais c'est l'essence de ce qu'il nous raconte. Évidemment, depuis, Lane a quelque peu modéré son propos, mais il a quand même réussi à déclencher un vaste débat autour de la gouvernance, avec l'organisation aussi de débats streamés avec des acteurs proéminents de la plateforme. Je vous ai mis notamment en lien, par exemple, une vidéo, un débat qu'ils ont eu entre Lane Retic et Preeti Kasireddy, qui est la fondatrice de True Story, qui s'attaque à des problématiques de validation de l'information, justement, ou encore un autre débat entre Lane Retic de nouveau et puis le fondateur fondateur de Democracy Earth, donc Santiago Siri, auquel se joint, si je me souviens bien, Luc, qui est un des fondateurs de Aragon. Je me souviens plus de son nom, mais voilà. En tout cas, je vous invite à aller voir ses vidéos, c'est vraiment très intéressant. C'est un peu plus d'une heure de débat à chaque fois, mais c'est vraiment très enrichissant. Et ça a mis en évidence des limites importantes de la blockchain, tout en soulignant en même temps l'importance du problème à un moment où la communauté Ethereum doit encore une fois répondre à des questions importantes, parmi lesquelles, par exemple, qui doit prendre en charge la gestion des hard forks depuis le départ de d'Afri Shodan, est-ce qu'on doit inclure ProcPow, donc le système de d'exclusion des ASICs, dans la prochaine, dans le prochain hard fork Ethereum, et puis d'une manière générale, comment doivent être prises en place doivent être prises les décisions de plus en plus nombreuses et urgentes concernant le financement et les évolutions du réseau. Autrement dit, on doit prendre des décisions concernant le mode de prise de décision lui-même. Ça devient un petit peu récursif, cette histoire, c'est pas facile. Mais voilà, ce qui est plus triste, je trouve, encore une fois, c'est que comme avec Afri Shodan il y a quelques semaines, ici, de nombreux tweetos se sont un petit peu déchaînés sur Lainretic pour avoir même osé poser la question, et puis ça a dérapé dans pas mal de cas dans des attaques ad hominem, des attaques personnelles, des émotions exagérées, enfin bref, tout ce, le contraire d'un débat sain et argumenté. Pour beaucoup, il devient évident, de plus en plus évident, que Twitter est en partie responsable de ce climat d'hostilité parce que ça favorise le contenu spontané, impulsif, les punchlines qui font beaucoup de retweets, mais pas les arguments constructifs et raisonnés et les consensus. Donc voilà. Mais n'empêche que Lane en a pris pour son grade et qu'heureusement, il s'est armé contre ça et j'espère qu'il pourra continuer à résister à ce genre d'attaque. Pour moi, ce qui ressort de tout ça, c'est que ces discussions sont nécessaires et que ceux qui s'investissent le plus dans les problèmes de gouvernance, comme Santiago Siri, doivent s'impliquer dans les solutions aux problèmes de gouvernance de la blockchain, s'ils veulent faire avancer leur recherche et espérer un jour avoir un impact concret en dehors de la blockchain, sur la gouvernance en général. Donc j'adore que Santiago ait pu faire ce débat avec Lane, par exemple, et j'espère qu'ils en feront d'autres. D'une certaine manière, ce qui se passe en ce moment chez Ethereum, c'est un peu le bac à sable idéal pour faire réfléchir aux pratiques et aux outils qui pourraient un jour faciliter et inspirer la gouvernance dans des communautés plus larges. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça se dérouler dans la communauté blockchain, en espérant que ça s'élargisse ensuite. Maintenant, évidemment, tout ça, c'est une des principales motivations de Lane, entre autres, de votre serviteur aussi. C'est aussi pour ça que je m'intéresse particulièrement à tout ça. Ces débats mettent aussi les développeurs face à leurs responsabilités. On voit de plus en plus de développeurs qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ce genre de responsabilité-là. C'est pas pour ça que j'ai signé. C'est trop de pression sur mes épaules. » En même temps, certains ont peur de des risques légaux auxquels ils font face en exposant leur identité tout en ayant autant de pouvoir dans la gouvernance de la blockchain. Ça se comprend. Ça a montré ses limites par le passé, mais je pense qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, et notamment quand on est développeur et qu'on participe activement au développement de ce genre de système, on a de fait un rôle social aussi à jouer, et il faut pas, à mon sens, avoir peur de ce rôle. C'est presque de l'activisme, encore une fois, c'est de la politique, et on doit s'impliquer, je dirais avec force et courage, dans ce genre d'initiative. En tout cas, il y a définitivement matière à en faire un débat récurrent, et j'espère que le genre de vidéos qu'on a vu apparaître ces dernières semaines vont se multiplier. Ça pourrait peut-être même donner lieu, enfin j'en serais presque venu à espérer que Lane et Santiago se lancent dans la création d'un podcast régulier autour de cette problématique. Ça a été évoqué rapidement dans la conférence, mais voilà, affaire à suivre. En tout cas, j'espère que ça va se concrétiser. Voilà pour ce qui est de ce sujet. On passe au deuxième sujet de cet épisode que je voulais évoquer avec vous, c'est celui de l'industrie automobile et notamment des véhicules autonomes qui s'intéressent à la blockchain. Alors dans quel contexte me direz-vous ? Ben pour partager les données de leurs voitures autonomes. Dans le monde des voitures autonomes, où le machine learning joue un rôle aussi important, un des nerfs de la guerre finalement, c'est les données. Et ça, les données dont on parle ici, c'est à la fois les données sur l'environnement dans lequel les voitures évoluent, qui est en perpétuelle évolution, mais aussi sur les scénarios de comportement des humains et des autres véhicules avec lesquels les voitures autonomes vont devoir interagir. La plupart du temps, enfin, ces véhicules seront encore conduits par des humains. Et tout ça ne peut fonctionner que... Ah oui, et bien sûr, il y a aussi toutes les données sur les meilleurs comportements à adopter pour le véhicule autonome lui-même. Et tout ça peut fonctionner qu'avec des quantités massives de données. Les acteurs qui disposent des plus gros réseaux de captation de ces données disposent du coup aussi d'un avantage important. C'est pour ça que vous avez les véhicules de Tesla, même s'ils sont pas encore complètement autonomes, ils disposent de tous les capteurs qui rassemblent un maximum de données et qui les uploadent quand même chez Tesla pour que Tesla puisse compiler tout ça et utiliser ça pour enseigner toutes ces informations à leurs algorithmes de machine learning. Pareil chez Waymo, hein, l'acteur de chez Google, qui fait la même chose avec ses voitures autonomes qui continuent à tourner autour, même si elles ne sont pas encore disponibles sur le marché pour le grand public. Ils ont un certain nombre, une grosse flotte de véhicules qui tournent en permanence, sans parler de tous leurs simulateurs qui recompilent ces données de manière complètement virtuelle. Maintenant, vous avez aussi un certain nombre de constructeurs automobiles qui n'ont pas encore de véhicules, ne serait-ce que même partiellement autonomes, qui équipent quand même des véhicules non autonomes de tout un tas de capteurs pour essayer de rassembler un maximum de données sur base simplement de la circulation réelle avec des conducteurs, tout ce qu'il y a de plus humain. L'objectif encore de tout ça, de toutes ces initiatives, c'est de rassembler un maximum de données. Maintenant, d'une manière générale, ces données sont encore souvent isolées au niveau des constructeurs, dans des silos, ce qui implique une quantité importante de redondance, c'est-à-dire que chacun des constructeurs rassemble les données un petit peu dans son coin. Et c'est justement dans ce contexte-là que l'année dernière, un consortium qui s'appelle MOBI, pour Mobility Open Blockchain Initiative, a été formé pour explorer l'opportunité d'utiliser la blockchain pour faciliter le partage de données entre les constructeurs. Et là, il y a un nouveau groupe de travail qui vient d'être créé, c'est un petit peu pour ça qu'on en parle dans l'actualité, au sein de ce consortium, pour explorer notamment l'idée de marché d'échange de données, qu'on appelle des AVDM, pour Autonomous Vehicle Data Markets, et qui est dirigé en ce moment par quelqu'un de chez General Motors. Au passage, BMW, par exemple, un autre gros constructeur, a également exprimé son intérêt pour cette initiative. Évidemment, on constate que la plupart des acteurs impliqués dans cette initiative, ce sont des acteurs en retard sur ce marché. Probablement parce qu'ils aimeraient bien que ceux qui ont beaucoup plus de données les partagent avec eux, comme par exemple Waymo ou Tesla. Waymo, de son côté, ils accumulent beaucoup de données, hein, puisqu'ils ont, on estime qu'aujourd'hui, ils accumulent environ 1 million de miles de conduite autonome par mois. Sans parler même des données qu'ils accumulent simplement par simulation, en rentrant toutes ces données et puis en les resimulant virtuellement. Donc voilà, beaucoup d'autres acteurs aimeraient bien pouvoir bénéficier de ces données-là, quitte à les acheter, à les payer dans ce système de marché de données. Mais on va dire que Waymo ou Tesla, par exemple, gardent jalousement ces données parce que c'est un petit peu leur avantage concurrentiel. Oui, certains pourraient se poser la question, mais pourquoi parler de blockchain dans ce cas-là, au-delà de la possibilité de mettre en place un marché de micro-transactions pour faire l'échange de données. Il y a aussi l'idée que on pourrait facilement expliciter quel type de données serait partagé avec qui et tous les algorithmes qu'il y a derrière à travers les smart contracts. Maintenant, si évidemment vous posez la question à Waymo, ce qui a été fait, eux, ils voient pas vraiment l'intérêt de la technologie. Tu m'étonnes, Monseigneur. Enfin bref. Donc voilà, il y a des initiatives dans ce monde-là aussi. Ça m'intéressait particulièrement parce que je suis aussi un grand fan de voitures autonomes. Troisième actualité de la semaine, on va parler de YouTube et on va parler notamment de PewDiePie. Que vient faire PewDiePie dans le monde de la blockchain, me direz-vous ? Alors, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, faut voir que YouTube agace de plus en plus de ses créateurs avec un modèle économique publicitaire qui est de plus en plus imprévisible. Le fait est que les annonceurs sont de plus en plus sélectifs et ont de plus en plus de pouvoir. Donc, YouTube a tendance à démonétiser des vidéos ou voire des chaînes entières, la plupart du temps via des algorithmes dont les critères sont tout sauf clairs et voire parfois carrément arbitraires. ce qui pousse de nombreux créateurs à développer de nouvelles sources de revenus, puisqu'ils peuvent pas vraiment compter de manière fiable uniquement sur le revenu publicitaire de YouTube. Ces nouvelles sources de revenus peuvent éventuellement affecter négativement la qualité du contenu. On parle par exemple des vidéos sponsorisées, parfois sponsorisées mais cachées comme telles, dans lesquelles les créateurs YouTube ont tendance à faire la promotion de produits sans expliciter qu'ils ont été payés pour ça. Vous avez aussi beaucoup de YouTubeurs qui se tournent vers le merchandising, c'est-à-dire ils font des mugs, des t-shirts, des pulls, que sais-je, à leur effigie ou à leur marque, et puis ils essayent de vendre ça via leurs vidéos. Mais du coup, leurs vidéos sont truffées de pubs pour leur propre merchandising, au point que ça en devient un petit peu agaçant. Et donc que ça diminue la qualité du contenu. D'autres youtubeurs encore se dirigent vers des modèles basés sur le crowdfunding, comme avec Patreon, ou Utip. Et là encore, vous avez beaucoup de pubs en amont, en aval des vidéos, pour essayer de diriger les gens vers ce genre de plateforme. Et vous avez même d'autres youtubeurs qui doivent constamment s'adapter aux contraintes de l'algorithme et qui du coup publient des vidéos plus fréquentes mais de qualité plus faible, par exemple. Donc là, ils essayent de tricher un petit peu avec l'algorithme, avec toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Enfin, vous avez certains créateurs qui n'hésitent plus à utiliser leur notoriété sur YouTube pour rediriger leur audience vers d'autres plateformes de diffusion de vidéos qu'ils estiment plus justes avec leur contenu. Alors c'est notamment par exemple le cas de l'ex-actrice porno canadienne Piper Blush, qui avait réussi à rassembler quelques 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et maintenant elle les redirige vers une plateforme qu'elle a fait développer elle-même qui s'appelle Cocoscope, dans laquelle elle prétend, enfin elle avance l'argument que dans son cas il n'y a pas de censure, il n'y a pas de contrôle par la pub, et les créateurs touchent le maximum du revenu. Et maintenant vous avez d'autres qui choisissent d'utiliser d'autres plateformes déjà existantes mais plus marginales jusqu'à maintenant, et c'est notamment le cas de PewDiePie dans l'actualité de cet épisode, qui lui va se tourner vers une plateforme qui s'appelle DLive. Alors juste pour rappel, PewDiePie, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été la cible de nombreux critiques l'année dernière pour des contenus prétendument antisémites et un langage pas vraiment châtié, hein, on va dire, sur YouTube, qui lui avait valu des démonétisations massives et la perte d'importants contrats publicitaires. Donc il a été aux premières loges dans tout ce qu'on a appelé sur YouTube l'apocalypse. Mais là maintenant, il parle du coup, suite à tout ça, notamment, de se tourner vers une plateforme qui s'appelle DLive, qui est une plateforme de streaming, donc plus proche de Twitch dans l'esprit que de YouTube, mais ça tombe bien puisque il n'avait pas encore de stream régulier et c'est ça qu'il veut créer. Au passage, la plateforme DLive s'appuie sur la blockchain Lino, qui est le fruit d'une autre startup. A priori, ces deux systèmes, donc DLive et Lino, sont indépendants, mais ils travaillent en étroite collaboration. Et Lino elle-même avait levé quelques 20 millions de dollars dans une ICO privée début 2018. Et il semblerait en fait que DLive soit la première application décentralisée créée sur cette nouvelle blockchain, avec en l'occurrence un vrai modèle économique disruptif et complètement décentralisé. Par exemple, DLive ne prélève aucune part sur les revenus des créateurs, qui sont donc payés directement en token par les utilisateurs. À titre de comparaison, Twitch, donc, qui est détenu par Amazon au passage, garde 50% des revenus générés par les abonnements aux chaînes de ses streamers. Donc c'est quand même conséquent quand on met les deux éléments en comparaison. Et ben le gros buzz de la semaine, c'est que donc PewDiePie, un des plus gros créateurs sur YouTube, hein, qui a quand même 93 millions d'abonnés et plus de 15 millions de revenus estimés en 2018, il a annoncé qu'il allait diffuser un nouveau live stream hebdomadaire exclusivement sur DLive. Alors exclusivement probablement pour quelques mois, hein, ça fait probablement l'objet d'un deal financier entre les deux, mais c'est quand même un partenariat conséquent quand on considère l'impact, l'engagement que peut avoir un PewDiePie. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent ce podcast dès qu'il sort, c'est-à-dire ce samedi 13 avril, le premier stream de PewDiePie sur DLive se déroulera le dimanche 14 avril. Donc vous avez encore le temps pour encore une fois pour ceux qui écoutent tout de suite. Et au passage, PewDiePie a annoncé qu'il donnerait également entre 10 et 50 000 dollars, entre 10 000 et 50 000 dollars en Linopoint, c'est le nom de la monnaie sur sur DLive, à d'autres créateurs qui utiliseraient aussi la plateforme. Alors encore une fois, hein, il y a certainement un deal financier derrière un tel partenariat, mais et puis les conditions de ce deal ne sont pas connues, donc c'est pas très transparent, mais ça change rien au fait que c'est un énorme pari pour un créateur comme PewDiePie, surtout dans une startup fondée seulement en 2017, donc assez jeune, et comptant aujourd'hui 30 employés et à peu près 35 000 streamers depuis l'ouverture de DLive en 2018. Alors, ils prétendent quand même avoir 3 millions d'utilisateurs, mais on est très loin du nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur un YouTube, par exemple. Petit détail marrant quand même, qui montre un petit peu à quel point ce deal est important pour DLive. Ils ont renommé leur application sur iOS. J'ai voulu aller télécharger l'application DLive sur mon iPhone. Et sur l'App Store, le nom de l'application, c'est DLive-WatchPewDiePie. Donc, ils ont carrément mis ça dans leur titre pour bien optimiser le référencement. Ça montre à quel point ils attendent beaucoup de ce partenariat. Maintenant, ce qui est plus inquiétant à mon sens, quand on analyse un petit peu l'actualité en question, c'est que même si DLive dit ne prendre aucune part sur les revenus des créateurs et dit ne jamais avoir l'intention de le faire, toujours est-il qu'aujourd'hui, ils ne mettent pas en avant un modèle économique qui pourrait compenser ça. Et pour expliquer notamment comment ils vont générer du revenu sans justement prélever cette commission sur les abonnements ou les donations. Donc, c'est difficile à dire aujourd'hui comment ils vont faire ça. Pour l'instant, ils ont dit leur principal objectif, c'est la croissance, c'est pas la monétisation. Donc, c'est une stratégie assez courante dans les startups. Mais quand même, pour l'instant, on sait pas comment ils vont faire de l'argent. Donc, est-ce que cette méthode de génération de revenus sera compatible avec leurs valeurs? Ce sera la question un petit peu à venir. Donc, affaire à suivre. Mais de toute évidence, le financement de la création, c'est définitivement aussi un des domaines où la blockchain est la plus prometteuse. Voilà qui conclut l'actualité que je voulais couvrir dans cet épisode 25, et qui conclut du coup cet épisode 25 lui-même. Donc vous pouvez, comme d'habitude, je vous invite de nouveau à nous laisser vos commentaires, vos recommandations, etc. sur le blog de l'émission, sur proofofcast.com, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous laisser des petites reviews sur iTunes, par exemple, pour nous aider à faire connaître le podcast et le faire monter en popularité pour qu'on ait toujours plus d'auditeurs et que ce soit toujours plus qu'on touche un public toujours plus large. En attendant, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, sur srbogast et puis sur proofofcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Udemy, puisque je rappelle que pour les développeurs parmi vous qui voudraient savoir comment on développe des smart contracts et des applications décentralisées sur Ethereum, j'ai un cours sur Udemy dont vous pourrez profiter pour la modique somme de 10€ avec le code proofofcast que je vous ai mis en lien dans chaque épisode du blog. Et puis vous pouvez aussi me retrouver régulièrement dans Les Technos, un autre podcast qui lui est dédié à la technologie en général. Et pour finir, comme je le répète maintenant à chaque épisode, si vous voulez soutenir l'émission financièrement, vous pouvez aussi envoyer vos petits dons en Ether à l'adresse proofofcast.eth avec votre wallet préféré. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Le prochain épisode, donc l'épisode 26 du podcast, sera diffusé le 27 avril. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir et à bientôt.